Bonjour à tout le monde. On est content d'être ensemble et on est content de voir cette salle remplie. Et on est content de voir qu'effectivement les sièges manquent. Alors, ce matin, donc j'avais donné quelques... Bon, c'était pas vraiment une consigne. J'avais proposé aux collégiens et aux lycéens, bon, de toute façon les lycéens ils restent, mais aux collégiens de rester avec nous. Alors ils sont où les collégiens? Je ne les vois pas. Vous pouvez lever la main? Oui, ils se sont concentrés là-bas, un petit peu devant. Ok. Alors, pourquoi je vous ai demandé de rester? C'est que je considère que le collège et le lycée sont des temps... sont des temps où sont pas faciles à vivre. Alors après, c'est pas forcément mieux, je vous rassure. Mais je trouve que dans des écrins comme sont le collège et le lycée, on peut vivre parfois des situations extrêmement cruelles parce que les jeunes sont pas tendres les uns avec les autres. Après, quand on est adulte, c'est pas tendre. Mais c'est peut-être un petit peu plus sournois. Mais quand on est au collège ou au lycée, c'est en pleine face. Alors, c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis longtemps. Et je me disais, ça pourrait être aussi un encouragement pour nos jeunes. Alors, surtout les aînés, ne vous levez pas, ne quittez pas la salle. Ce message nous concerne aussi. J'ai pu en expérimenter quelques expériences ces temps passés. Alors surtout, ne pensez pas que tout ce qui sera dit ne concerne que les jeunes. Non, ça concerne vraiment tout le monde, du plus jeune âge au plus grand âge. Alors la question que nous allons nous poser ce matin, c'est... Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre, mais comment et quand réagir quand on est attaqué? Mamie a parlé d'attaque ce matin, de moquerie. On va parler de ça effectivement aujourd'hui. Comment et quand réagir face à des attaques, parfois pas, je ne parle pas d'attaques extrêmement violentes, mais parfois des petites attaques simples, des choses répétitives qu'on nous répète tous les jours et qui nous blessent, qui nous font du mal. Mais comment on réagit dans ces situations-là? Alors c'est pour ça que mes chers collégiens que je vois, je vous ai demandé de rester parce que vous êtes vraiment des victimes toutes spéciales dans ce genre de moquerie. Alors je ne vous demanderai pas de lever la main si vous avez déjà connu des attaques personnelles. Hein. Ça peut être partout, ça peut être dans la rue, tout simplement parce que notre tête ne revient pas à celui qu'on croise ou à celle qu'on croise, ou tout simplement parce que sur la route, on ne va pas assez vite, ou parce que le geste n'était pas correct, ça ne convenait pas à la personne qui était en face ou derrière nous. Enfin, voilà. Et ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver dans notre voisinage, dans notre travail. Et moi, je peux vous dire, je peux vous témoigner, chers jeunes, que à l'époque du lycée, moi-même, j'ai traversé des moments assez difficiles où pendant quasiment une année, il a fallu que je me cache, que je sorte par des portes dérobées pour échapper à des camarades qui m'en voulaient, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne me souviens même plus pourquoi. Mais c'était des temps qui étaient difficiles et c'est vraiment pas facile de savoir comment on réagit dans ces situations. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, les jeunes. Peut-être que vous, tout de suite, vous vous montrez agressif. Je ne sais pas. Mais voilà. Alors, on va voir. Je me suis posé beaucoup de questions ces derniers temps parce que ça peut toucher n'importe qui et n'importe quand. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est comment réagir? Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je dois vraiment me défendre? Est-ce que je ne dois laisser que Dieu agir en silence? Tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de textes, on va en lire quelques-uns, on ne va pas les lire tous, j'en ai énormément. Où est la limite entre faiblesse, c'est-à-dire la faiblesse, c'est je me laisse faire, je me fais taper dessus à longueur de journée, ça c'est la faiblesse. Où est la limite entre la faiblesse et la confiance en Dieu? Avoir confiance en Dieu, ne rien dire, laisser faire, ça peut être perçu comme de la faiblesse. Vous êtes d'accord? Où est la limite entre la patience dans l'épreuve? Alors, je vis une épreuve dans mon collège, dans mon lycée. Et où est la limite entre la patience et la lâcheté? Parce que la patience, c'est ne rien faire. Et ne rien faire, ça peut être aussi perçu comme de la lâcheté. Je ne fais rien. Oh, bah toi, de toute façon, on peut te taper dessus. De toute façon, t'es pas courageux. Il va pas répondre. Tu peux y aller. Tu peux te moquer de lui. Tu vas voir, il va pas répondre. Qu'est-ce que je peux choisir entre défense et attaque? Voilà des questions qu'on peut se poser, alors chacun de nous, quand on est exposé à ces situations. Alors j'aimerais que nous donnions quelques éléments de réponse à la lumière de la Bible. Et si quelqu'un dans la salle, et je sais la certitude que dans la salle, il y a des gens qui souffrent de situations de la sorte, parce que tous les jours à son travail, on a droit à sa petite pique. Et voilà, ça y est, on va me le sortir encore que j'ai un gros nez. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire que j'ai un gros nez? Eh bien, si vous êtes concerné dans la salle ce matin, eh bien, que ces quelques réflexions, ces quelques pensées puissent vous aider ce matin. Alors, on va s'y prendre, je vais vous exposer comment on va s'y prendre. Dans un premier temps, eh bien, chers jeunes, vous qui souffrez peut-être dans votre collège, eh bien, nous allons regarder comment Jésus, bon, qui n'a pas été au collège, mais qui a été éduqué, bien sûr, mais comment Jésus, lui, s'y est pris. Et on va voir plusieurs exemples. Et on va voir que ces exemples sont assez troublants. D'accord? Ensuite, on va dégager de ce qu'on aura lu, des exemples de Jésus, quelques grands principes. Et enfin, on citera deux pièges ou deux erreurs d'interprétation à éviter. D'accord? Est-ce que ça vous va comme programme? Bon, nous en avons pour 4 heures. Alors, premièrement, comment Jésus, lui, s'y est pris? Alors, c'est vrai, on a vécu des choses dans nos collèges, dans nos lycées ou dans notre vie au travail. On ne peut pas dire que Jésus ait vécu les mêmes choses, mais il a quand même vécu des choses étonnantes. Alors, on va prendre un premier exemple. Alors, je ne vais pas tout lire parce que sinon, on va en avoir pour trop longtemps. 5 heures. La première, Jésus, lorsqu'il avait 12 ans, ah ben ça, c'est un âge de collégien. Lorsque Jésus avait 12 ans, qu'il était dans le temple, vous vous souvenez, ses parents étaient venus à Jérusalem pour la fête de Pâques, et puis il y avait tellement de monde, Jésus s'est perdu dans la foule, les parents sont rentrés en direction de Nazareth, et pendant 3 jours, pas de nouvelles de Jésus, on ne sait pas où il était. Imaginez l'angoisse des parents, 3 jours sans trouver leur garçon de 12 ans. L'angoisse. Eh bien, ils ont fini par le retrouver et il était dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Et quand ses parents le virent, Luc 2, verset 48, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Bon, on peut imaginer que sa mère n'était pas contente. Et ce pas content, c'était simplement parce que, et ça peut se comprendre, parce qu'elle a eu peur. Pendant 3 jours, elle a eu peur. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et Jésus, là, leur répondit, Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Bon, certes, on ne peut pas dire que là, Jésus est vraiment attaqué. Il n'est pas attaqué par ses copains, mais quand même, il se prend une petite remarque de ses parents, gentiment. Et ce qu'on peut facilement comprendre. Mais lui, alors bien sûr, Jésus obtempère, il va suivre ses parents, mais il leur répond de manière assez surprenante et aussi de manière assez assurée. Hein, alors là, il n'hésite pas une seconde, Jésus. Sa mère lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et Jésus dit, mais voyons, vous n'étiez pas au courant qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà une manière de répondre très assurée à ses parents. Vous allez comprendre où je veux en venir. Hein. Deuxième exemple, des gens se moquent de Jésus. Ça vous arrive quand on se moque de vous? Oui, moi, ça arrive souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas, il y a des têtes comme ça. Luc 8, c'était au moment où Jésus ressuscitait une petite fille. Tous pleuraient et tous se lamentaient sur elle, sur la petite fille qui était morte. Alors Jésus dit, Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Réaction de la foule, Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement vivre. Alors, non pas qu'on est capable de ressusciter des gens, mais de subir de la moquerie, ça, oui. Et là, le texte, curieusement, ne rapporte aucune réaction de Jésus. Alors, sur le texte précédent, il a réagi, bon, de manière très, très respectueuse, bien sûr, mais là, rien. Pas de réaction. Jésus ne répond pas. Troisième situation. Vous vous souvenez de ce passage de Luc 21 où Jésus chasse les vendeurs du temple. Hein, les vendeurs du temple, là par contre, Jésus, le temple étant bafoué, la maison de Dieu étant humiliée par ses marchands, par ses vendeurs, Jésus ne fait rien. Ah non, 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 vous vous souvenez les enfants, hein? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Là, il s'énerve. Et le Jean dira même qu'il se fabrique un fouet et que là, il chasse les marchands du temple en leur disant, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Alors là, dans cette situation un peu provocante, le temple humilié, le temple bafoué, Jésus répond de manière extrêmement ferme. Alors pourquoi il a répondu, pourquoi il a réagi là, pourquoi il n'a pas réagi dans les autres situations? On y vient. Quatrième situation. Alors là, c'est un grand exemple, c'est la passion de Christ. La passion, les enfants, c'est le moment où Jésus a connu la mort sur la croix et puis ensuite la résurrection avec son jugement. Alors dans l'histoire de la passion, au moment de Pâques, Jésus a reflété les deux manières d'agir. Non-réponse et réponse. Alors, je vous lis pas, je vous donne les références. Luc 2, verset 63, il y a des hommes qui se tenaient devant Jésus et qui se moquaient de lui. Ils le frappaient. Ils lui voilaient le visage, on suppose avec un linge, et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Et là, ils le frappaient. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Alors ça, c'est vraiment grave. Et on aurait pu espérer, on aurait pu imaginer que Jésus se défende. Mais là, pas de réaction. Un autre moment, Pilate, qui l'interroge, lui dit, es-tu le roi des Juifs? Et là, Jésus, il répond. Et il dit, tu le dis. C'est étonnant, hein? Situation suivante, Hérode, qui lui pose des questions. Alors, Luc 23, il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Là, Jésus décide de ne pas répondre. Alors là, les enfants, je ne sais pas, vous allez vous dire, ben alors, du coup, on est perdu, on ne sait plus ce qu'on doit faire. On y vient. Et la dernière, c'est au moment où le peuple regardait Jésus mourir, ils étaient obligés de le regarder, les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Ah, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Il s'approchait, lui présentait du vinaigre. Mais là encore, Jésus, vous en souvenez, qu'est-ce qu'il fait? Il ne répond pas. Il n'y a pas de réaction. Il ne leur répond pas. Alors, mes chers amis, mes chers jeunes, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce que nous venons de lire, de ces exemples? Jésus nous montre l'exemple, nous le savons. Et nous voulons l'imiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Eh bien, qu'est-ce qui fait, selon vous, que tantôt, Jésus répond, mais prend la, alors répond, c'est pas, enfin, il prend des décisions d'agir ou de répondre, tantôt il reste muet. Eh bien, la réponse est très simple. Lorsque Jésus le juge nécessaire, Jésus défend les intérêts du royaume de son Père. Et lorsqu'il le juge opportun, il affirme publiquement son identité divine. Alors quand, en gros, quand l'histoire, quand l'agression, quand l'attaque concerne le royaume de Dieu ou la divinité de Dieu, la divinité de Jésus, là Jésus répond. Il s'exprime. Hein, le temple qui a été bafoué, là c'est clairement l'autorité divine qui est bafouée. C'est la maison de Dieu qui est bafouée. C'est l'image de la maison de Dieu, l'image de ce qu'est Dieu qui est bafouée. Et là Jésus répond. Et il répond très fermement. Par contre, en revanche, si ce ne sont que, alors que, entre guillemets, parce que c'était quand même extrêmement grave ce que Jésus a vécu, n'est-ce pas, hein, les jeunes, hein, si ce ne sont que des moqueries, ou des coups, des blessures, des accusations, des inculpations injustes, lorsque c'est dirigé contre Jésus personnellement, là, Jésus ne répond pas. Est-ce que vous avez compris la différence? Lorsque la foi, lorsque la divinité est atteinte, il y a réaction. Lorsque Jésus est atteint dans sa personne, il n'y a pas de réaction. Ésaïe dit, il n'a point ouvert la bouche. Et ça, c'était parce qu'on se moquait de lui, parce qu'on le frappait, parce qu'on l'a accusé et parce qu'on l'a inculpé et qu'au final, on l'a exécuté. Eh bien, nous pouvons nous appliquer ce principe pour nous-mêmes, chers amis et chers jeunes. Quelqu'un se moque de moi? Bof! Eh ben, allez, qu'importe, qu'il se moque, allez, si ça lui fait plaisir. Quelqu'un se moque de Dieu? Alors là, on réagit, on sort avec lui et on règle ça au couteau. Ah, j'espérais qu'il y ait une réaction. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est comme ça que Jésus nous a montré l'exemple? Et c'est là où je veux aussi en venir, c'est comment on réagit, s'il faut réagir. Un jour, quelqu'un m'a dit, bon, ben, toi, je sais, t'es quelqu'un d'ouvert. Je sais que tu vas pas aller te battre sur des petits détails. Par exemple, si je te dis que Jésus n'est pas ressuscité, je sais que tu vas pas en faire un fromage. Et là, je lui ai dit, ben alors, tu peux effectivement me dire ça sur beaucoup de sujets, mais sur celui-là, précisément, non. Je te réponds, non, je ne suis pas d'accord. Jésus est ressuscité et il est vivant. Il y a des sujets sur lesquels, alors si on nous attaque sur le fait que c'est Copernic qui a inventé, enfin qui a découvert la gravité, mais non, moi je te dis, c'est pas lui, c'est Galilée, non, mais c'est un autre. Non, non, voilà, on va pas les se battre, ça sert à rien du tout. Franchement, ça sert à rien. Et même, j'ai envie de dire, on peut aller nous attaquer, ou nous provoquer, nous asticoter sur des sujets de la Bible. Moi je te dis, la création. C'était pas 7 jours calendaires. Si, moi je te dis, c'était 7 jours de 24 heures. Honnêtement, on va quand même pas aller se déchirer sur des sujets pareils. Hein, on n'y était pas. Ça, c'est une certitude. On n'y était pas. Par contre, si on vous dit, Jésus, oui, oh, c'est un détail. Oui, il est mort, mais il n'est pas forcément ressuscité. C'est une allégorie, c'est une image, c'est poétique. Et là, je suis désolé. Je te résiste. Non, Jésus est vraiment ressuscité. Alors comment? Donc effectivement, on ne sort pas dehors et ne règle pas ça au couteau. Comment Jésus a réagi, lui, lorsqu'il était attaqué de manière violente? Vous vous souvenez ce qu'il a dit sur la croix? Il a prié pour ses bourreaux. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors là, déjà, c'est, on a compris. Et si la première chose que nous faisions, hein, les jeunes au collège, quand on nous attaque, quand on nous fait de la peine, quand on se moque de nous, et si la première chose qu'on faisait, c'était de prier pour ceux qui se moquent de nous? Waouh! Dans mon expérience professionnelle, j'ai eu à vivre des choses comme ça, et bien je peux vous dire, quand quelqu'un, je crois que c'est mamie, quand mamie m'a demandé, est-ce que tu pries pour eux? Là, j'ai eu beaucoup de mal à réagir et de me dire, bon, je sais que mamie a raison. Et il n'y a rien de plus agaçant de se faire reprendre par quelqu'un qui a raison, vous êtes d'accord? Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, effectivement, il faut que je prie pour ceux qui me font du tort. J'ai eu beaucoup de mal, il m'a fallu du temps. Mais je peux témoigner qu'à partir du moment où j'ai pu briser cette glace, prier pour ceux qui me faisaient du tort, eh bien, une grande paix m'a été donnée. Et je vous assure que c'est vrai. Et donc, si la première chose que nous faisions, c'était de prier pour ceux qui nous font du tort. Jésus va plus loin. Vous vous souvenez dans son discours sur la montagne, les enfants, puisqu'on est dans le catéchisme. Jésus invitait ses auditeurs à tendre la joue gauche à ceux qui avaient déjà frappé la droite, à donner son manteau à ceux qui le réclamaient ou à faire un peu plus de chemin avec ceux qui l'exigeaient. À nous réjouir des attaques. Ça, il l'a dit. Il nous demande de nous réjouir quand on est attaqué. C'est pas évident, hein? Qui sait déjà, qui a déjà ouvert une bouteille de champagne quand on a été l'objet de critiques ou de fausses accusations. En gros, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Alors ça, est-ce qu'on vous l'a déjà appris au catéchisme, les enfants? Je suis certain que oui, je vois des têtes qui acquiescent. Aimer son ennemi, mais c'est fantastique. C'est fantastiquement dur. Mais c'est fantastique quand on y arrive. Paul a dit aux Romains, alors on a démarré l'étude aux Romains, donc j'étais content de trouver un passage dans les Romains. Paul a dit aux Romains, ne rendez à personne le mal pour le mal. Oh là là, voilà. Là aussi, on a un grand programme. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi, alors moi c'est Dieu, hein, à moi la vengeance, et voilà, alors t'occupe, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, ah, vous en avez peut-être aussi des ennemis, c'est pas très, au collège, on va pas parler d'ennemis, mais si vous avez des personnes qui sont pas gentilles avec vous, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, c'est-à-dire en faisant ça, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas prendre un brasero et le renverser sur la tête pour que les cheveux de la personne brûlent. Mais en faisant ça, ça provoque une réaction chez la personne qui se plaît à se moquer de vous, qui se plaît à vous faire du mal, et ça provoque sur cette personne une réaction, mais attends, je ne comprends pas, je me fatigue à l'énerver, et j'arrive pas à l'énerver. Et au final, c'est moi qui m'énerve, parce que je me moque de lui ou d'elle tous les jours, et elle, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a offert à manger, à boire, et elle m'a demandé comment j'allais ce matin. Mais c'est impensable, je ne comprends pas. Et ça, c'est ça les charbons ardents. Et ça, c'est un témoignage bien plus important que si on s'était énervé ou si on avait cassé des choses ou si on avait menacé ou si on avait sorti son couteau. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Eh bien, mes chers amis, tout le message de ce matin est dans ce passage. Oui, laissons Dieu agir. C'est lui qui prendra notre défense. Ne réagissons pas, gardons le silence, si on est moqué, et contemplons l'action de Dieu dans nos vies. Je vous garantis, et là je m'engage, hein, je vous garantis qu'en laissant Dieu agir, vous verrez l'action de Dieu agir dans vos vies et dans les situations difficiles que nous connaissons. Par contre, si c'est notre foi qui est en cause, eh bien défendons-la comme Jésus l'a fait, avec douceur, respect et sans désir de vengeance. C'est là l'important, sans désir de vengeance. On dit souvent que la meilleure défense, c'est quoi? La meilleure défense, c'est l'attaque. Eh bien, dans l'Évangile, c'est pas vrai. La meilleure défense, c'est le silence et la patience. Ah oui, ça, on n'a pas l'habitude de l'entendre, hein. La meilleure défense, c'est le silence et la patience. Alors, j'aimerais vous laisser deux pièges, pièges interprétation, qu'il convient d'éviter. Est-ce qu'on pourrait me dire, oui, mais Jean-Pascal, c'est bien ce que tu as dit, c'était joli, c'était intéressant. Mais ça, tous les exemples que tu nous as donnés, c'est que des exemples qui concernent des choses qui touchent à ma vie, on va dire, de chrétien, parce que je suis chrétien, alors on va se moquer de moi parce que je suis chrétien. Mais moi, à l'école, on se moque de moi parce que j'ai un gros nez. Eh bien, je pense que c'est une erreur de penser que les principes que nous venons de dégager ne s'appliquent que sur des questions, sur des moqueries, parce que vous êtes chrétien ou parce que vous croyez en Jésus. Et j'espère que vous y croyez en Jésus. Ben non, parce que je pense que c'est même ridicule de le penser, si vous pouvez me permettre ce mot un peu fort. C'est ridicule parce que ça limite Dieu. Nous faisons pourtant tout pour la gloire de Dieu. Conduire sur la route On le fait pour la gloire de Dieu. Aller à la boulangerie, bon, ce sont des besoins que nous avons, mais nous le faisons avec le souci de montrer, d'être des exemples, des bons ambassadeurs de Dieu. Est-ce que Dieu s'arrêterait à l'accueil de notre entreprise quand on va au travail le matin? Est-ce que Dieu s'arrête le matin? Ah, monsieur, s'il vous plaît, désolé, vous n'avez pas la carte de l'établissement, vous n'avez pas votre carte d'étudiant, donc Vigipirate, vous restez en bas, vous laissez votre enfant monter en classe ou à votre travail, et vous, Dieu, s'il vous plaît, bah, patientez dans la salle d'attente. Est-ce que Dieu ne sait pas où est votre salle de cours? Vous croyez qu'il ne sait pas où elle est, votre salle de cours? Est-ce que Dieu ne sait pas où est votre bureau? Si vous êtes en A306, Dieu sait que vous êtes en A306. Dieu ne sait-il pas où est votre arrêt de bus? Non, je prends des exemples, évidemment, je prends des exemples pour vous faire sourire, mais c'est pour vous montrer à quel point on peut parfois se dire « Oui, mais ça, c'est que pour les choses évangéliques, et puis le reste, il y a la vie. » Non, Dieu est partout. Donc les principes que nous avons dégagés sont valables. Le malin, lui, il nous attaque dans tous les domaines de la vie. Si on nous insulte parce qu'on a un gros nez, c'est une manière de nous attaquer. Le diable nous attaque toujours sur les points faibles, sur les points sensibles. Si donc tous les matins, chers amis et chers jeunes, on vous traite de petits minables, je suis désolé, là je vais un peu me permettre, je vais déborder un peu. Si on vous traite de petits minables, ou si on se moque de vos gros nez, ou si on répand régulièrement des spaghettis trop cuits sur votre pare-brise de voiture, eh bien, prions pour ces personnes. Ce que nous avons dit est aussi valable. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de choses d'église ou de foi. Prions pour ces personnes. Demandons à Dieu d'agir et d'apaiser les situations tendues. Et attendons en silence, c'est là le grand principe, attendons en silence le secours de l'Éternel. Là, je cite un passage biblique, hein, c'est Lamentations 3:26. Attendons en silence le secours de l'Éternel. Maintenant, une interprétation à éviter. Il serait néfaste, en effet, de déduire des textes que nous avons lus qu'un chrétien ne peut pas déposer plainte lorsqu'il a subi un préjudice qui serait contraire à la loi. Prenons un exemple. Je suis chrétien, mon appartement a été cambriolé. Alors, je suis chrétien, donc je ne porterai pas plainte, hein, bien sûr. J'attends en silence le secours de l'Éternel. Non, je pense que là, c'est une erreur. Seule la fin de ma phrase est correcte. J'attends en silence le secours de l'Éternel. Signaler un tel fait aux autorités ne relève pas de l'offensive, de l'agression, de l'agressivité. Cela permet au contraire de faire valoir ses droits, par exemple en termes d'assurance, pour vous faire rembourser ce qui a été volé, et éventuellement d'empêcher d'autres de vivre la même chose que vous. Par contre, il serait vraiment inconvenant d'aller brûler la maison de celui qu'on croit être celui qui a dérobé les choses de notre appartement. On est d'accord, hein ? Là, par contre, oui, ce serait vraiment déplacé. Non, un simple signalement ne nous empêche pas de prier pour notre voleur. Ce n'est pas parce que j'ai déposé une plainte, j'ai signalé des faits, que ça me dédouane et que ça m'empêche, et que ce n'est pas cohérent de prier pour la personne qui est rentrée chez moi, qui m'a volé, et d'appeler sur lui la bénédiction, alors ça c'est dur, et encore plus le salut de Jésus. Parce que le salut de Jésus concerne tous les hommes. Et Jésus ne fait pas de différence, il n'y a pas de raison, je ne suis pas meilleur que celui qui a cambriolé mon appartement. On est bien d'accord, Jésus ne va pas plus punir telle personne que moi, il n'y a pas de raison. Je suis le même homme que celui qui est rentré et qui a dérobé. C'est difficile, mais Jésus a montré ses exemples. Alors, en résumé, un enfant de Dieu n'attaque pas. Voilà. J'ai prévu une conclusion extrêmement courte, avec des phrases simples, pour que, chers jeunes, mais aussi chers moins jeunes, nous puissions retenir quelque chose. Un chrétien, un enfant de Dieu, n'attaque pas. Il attend sa délivrance de la part de son Dieu en silence. Et tout au plus, se défend, notamment lorsqu'il est question de prendre position quant au royaume, lorsqu'il est question du royaume de Dieu. Et je ne résiste pas à l'envie de terminer ce message en vous lisant un passage qui sont des paroles de Jésus. S'il n'y a qu'une chose à retenir, ben, retenons que ce passage-là. C'est Jésus qui dit, mais on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois, devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Et là, il y a une phrase qui m'a énormément plu. Jésus dit, mettez-vous donc dans l'esprit, en gros on pourrait dire aujourd'hui, mais ancrez-vous bien une fois pour toutes dans la tête, de ne pas préméditer votre défense. Jésus dit cette phrase, hein, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors voilà, chers amis, ces paroles m'ont fait du bien à une certaine période. Mon entourage m'encourageait à un certain moment à aller, allez, maintenant il faut taper, quoi. Enfin, ça ne peut plus durer. Il faut que tu tapes. Et là, j'ai été très perturbé par ces paroles. Et je me suis posé beaucoup de questions. Mais je me disais, j'avais cette conviction, là, enfin ça m'a été donné, mais cette conviction de ne pas répondre. Et je ne voulais pas répondre à ce qu'on me faisait, à ce qu'on me disait. Et pourtant, on me conseillait enfin, d'y aller, quoi. Enfin, maintenant, enfin, ça peut plus attendre. J'ai été très perturbé parce que je me suis dit, je suis un lâche. En fait, si je ne réagis pas, je prends la facilité, et c'est de la lâcheté, et c'est de la faiblesse. Et je peux témoigner aujourd'hui que, heureusement, qu'il m'a été donné de ne rien dire. Parce que je peux vous garantir que je sais ce qui se serait passé si j'avais ouvert ma bouche. Si j'avais râlé, en gros, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et là, je crois avoir été gardé. Et donc, j'ai réfléchi très... Ça fait un an que je réfléchis à ce sujet. Je ne savais pas quand vous l'apporter. Mais voilà, maintenant c'est fait. Je vous confie ces quelques pensées, ces quelques paroles. Si vous êtes dans cette situation de moquerie, de difficulté, en ne sachant pas comment réagir... Eh bien, que ces quelques mots, ces quelques paroles puissent vous encourager avec l'aide de notre Dieu, qui est un grand Dieu, et parce que c'est lui qui s'occupe de nous, c'est lui qui nous venge, parce qu'il est un Dieu jaloux. Et il est jaloux, il n'est pas jaloux de notre voiture, il est simplement jaloux de nous. Et il ne supporte pas qu'on touche à un cheveu de ses enfants, et c'est en ça qu'il est jaloux de nous.